Bonsoir, bienvenue dans cette édition de Tribune de la Presse, troisième sont au centre du débat de ce soir, à savoir organisation des manifestations publiques en République démocratique du Congo, le rassemblement populaire des l'UDPS, programmé hier jeudi à la place de la poste à Kinshasa, a été brutalement dispersé par les éléments de la police nationale congolaise. Ensuite, les Palous décident d'appuyer Joseph Kabila et la majorité présidentielle aux prochaines élections. Enfin, affaire Lukolela, pas de divergence entre Kinshasa et Brazzaville au sujet de la traque contre la cité de Lukolela en province de l'Équateur, a rassuré mardi dernier le vice-premier ministre chargé de l'intérieur de la RDC. Quoi, confrère journaliste participe à ce débat, il s'agit de Fidèle Moussangou, il est coordonnateur du journal Le Pape, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Fidèle Moussangou.
Bonsoir confrère.
Joël Kadé-Ndanga, il est éditeur du journal Impact News, un bi-hebdomadaire qui paraît aussi ici à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadé-Ndanga.
Bonsoir Dimitri, bonsoir chers éditeurs du journal.
Martial Kiza Biamungu, il est correspondant du Digital Congo à Nitori, en province orientale, mais présentement il est ici à Kinshasa. Bonsoir Martial Kiza Biamungu.
Bonsoir Dimitri, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kinshasa.
Organisation des manifestations publiques en République démocratique du Congo, le soutien des Palous à la candidature de Joseph Kabila, ainsi que l'affaire Lukolela à l'Équateur. On écoute cette revue de presse que nous propose Kelly Kouté pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la marche des l'UDPS, supprimée encore une fois hier jeudi par la police. Le potentiel constate que la manifestation des l'UDPS et alliés a une fois de plus été dispersée hier à coups de gaz lacrymogènes. D'après le confrère, les manifestants étaient stoppés net au niveau de l'hôtel des postes sur le boulevard du 30 juin. En ce qui est du bilan, le quotidien fait état de quelques blessés et des arrestations du côté des l'UDPS et alliés, selon Jacques-Omer Chabani, secrétaire général de l'UDPS. Le phare explique que la violence ou brutalité d'hier jeudi de la police n'a pas épargné des journalistes venus couvrir l'événement. Un journaliste photographe de l'AFP a été sérieusement molesté et son matériel arraché mais remis après. Selon le journal, Onésime Moukandila de Radio Okapi a aussi subi de plein fouet des brimades diverses à telle enseigne qu'ils étaient forcés de suivre les événements en s'abritant. Le journal rappelle l'objectif de cette marche qui était de protester contre l'organisation des élections bâclées, non transparentes, moins crédible que la CENI s'apprête à offrir aux Congolais en date du 28 novembre prochain. La référence plus revient aussi sur cette manifestation dispersée. Selon ce journal, l'officier supérieur de la police présent sur place sur le lieu a affirmé avoir exhorté ses troupes à ne pas céder à la provocation, mais a ajouté n'avoir pas reçu l'ordre d'encadrer une quelconque manifestation. Présidentielle 2011, disait la dernière Kabila, titre Le quotidien L'avenir. Selon ce journal, parmi les raisons évoquées par le Palou, il y a le fait que Joseph Kabila est le seul qui est apparenté à la mouvance nationaliste lumumbiste. En titrant le Palou de nouveau derrière Joseph Kabila, le phare indique qu'Antoine Kizunga a mis fin au suspense pour l'élection présidentielle. Selon le confrère, la rumeur d'une possible rupture entre Kizunga et Kabila avait enflé lorsque le patriarche avait indiqué que le Palou était toujours dans l'attente d'un projet de société qui aille dans le sens de son combat politique. Terminant par cette affaire Lukolela, est là à présent. Le potentiel rapporte que la RDC a neutralisé des assaillants venus attaquer simultanément Mbandaka, Lukolela, Bolobo, Kwamout, Kinshasa et Matadi. Au journal d'ajouter contre Kinshasa et Brazzaville, il existe une diplomatie des dupes. D'après le confrère, Kinshasa et Brazzaville ne peuvent plus se contenter du lavage de linge sale en famille, mais d'une vraie diplomatie préventive, socle de toute politique de bon voisinage. Malheureusement, ça triste le journal, les partis ne jouent pas en jeu. En revanche, le phare indique que Brazzaville dénonce un montage et exige la vérité sur les élections. Enfin, la prospérité de son côté estime que Adolphe Lumanu a éteint les feux en se rendant à Brazzaville. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.
Merci, Kelly Kouté. Un petit commentaire, Fidèle Moussangou, vous êtes coordinateur du journal Le Pape, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi l'annonce du dossier hier à Kinshasa, de M. Kitima Bin Ramazani, une personnalité qu'on ne peut plus présenter aujourd'hui.
Oui, il s'agit d'un vieux qui meurt, comme je l'ai dit dans mon papier ce matin. Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Kitima, c'est un monument de l'histoire politique et syndicale du Congo. Il a commencé très tôt, il est né en 1924, à Loa, dans le Malema, chez les Bakutu. Il a travaillé comme agent colonial, il a fait la connaissance de Patrice Emery Lumumba à Stanleyville. Et il descend Kinshasa, il devient son secrétaire politique, micro-politique. Et il embrasse sa politique, et puis il rentre dans le mouvement syndical. Et il évolue jusqu'à atteindre le niveau du sommet du mouvement syndical mondial.
Donc, un des pionniers du syndicalisme
européen. Avec Bobo Dico, avec Kikongi, avec Raphaël Bisbois-Chabola, c'est les grands syndicalistes là-bas. Alors, mais il fait de la bonne politique. Il entre en politique en 67 comme ministre du Travail. Parce qu'en fait, il est entré, c'est pas parce qu'il voulait. Il y avait trois syndicats. Alors, Mobutu commençait déjà à préparer le parti État. Alors, il a fait d'abord le manifeste dans ses livres, qui met parmi les rédacteurs. Il monte au manifeste dans ses livres pour le parti du MPL. Alors, il y a des tractations pour créer un seul syndicat. Kitima est le premier secrétaire de l'UNPC à l'époque. Vous voyez comment il monte, et puis il devient ministre. Il fait une tractation des heures pendant 3 ans, mais il revient toujours. Et au parti. C'est un grand théoricien, un des grands animateurs du MPL. Bon, il avait déjà atteint l'âge, le Trévo l'a rappelé. Nous lui souhaitons vraiment un repos éternel auprès du futur.
Merci. Je vous salue, Nanga. Je vous salue, du journal de Impact News. C'est un bi-hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. La presse a aussi fait état des 20 ans d'existence du journal du quotidien, le potentiel.
Oui, c'est un journal qui a commencé, pendant la période la plus difficile. Et qui a tenu contre vents et marées avec toutes les répressions et tous les matraquages de la presse dans notre pays. 30 ans, c'est l'âge de la maturité, 30 ans, c'est l'âge de la sagesse. Tout ce que nous pouvons dire, c'est ce qui était encore une fois de plus plein succès à ce journal et à son fondateur. Et demander qu'il continue encore à servir la nation congolaise dans toute objectivité, dans tout le professionnalisme. C'est l'occasion pour moi de présenter toutes mes félicitations et un heureux anniversaire à ce journal.
Martial Kiza Benangou, vous êtes correspondant du Digital Congo à Ituri, en province orientale. Présentement, vous êtes à Kinshasa. Vous devez être au courant de ce qui se passe à Ituri. Quelle est l'actualité qui domine dans cette partie du pays?
Oui, l'actualité, comme vous le savez, Guinée, l'Ituri, reste toujours, des fois, confrontée par différentes situations sécuritaires, surtout dans la ligne du Bindi. La semaine qui vient de s'achever, on a signalé une 4 attaques dans la collectivité chiffrée des Wallons du Bundi, précisément vers Ozoba. C'est l'attaque des FRP, groupe qui reste jusqu'à aujourd'hui, le groupe qui est actif au niveau de la chiffrée des Wallons du Bundi. Voilà, ils ont attaqué le début de la semaine. Ozoba, c'est un des groupements qui est des fois sous contrôle des FRP et des fois sous contrôle des forces armées.
Merci, notre premier thème de ce soir. Organisation des manifestations publiques en République démocratique du Congo. Le rassemblement populaire de l'UDPS, programmé hier jeudi à la place de la Poste, ici à Kinshasa, a été brutalement dispersé par les éléments de la police nationale congolaise. Selon le secrétaire général de l'UDPS, à travers cette nouvelle manifestation, son parti et ses alliés exigeaient d'une part la transparence et l'équité du processus électoral et d'autre part dénoncer l'intolérance politique ainsi que les violations des droits et liberté des citoyens. Bilan, quelques blessés, 3 manifestants arrêtés et des journalistes bastonnés et violentés. On les dit bien, Mugandila, une des victimes, nous fait les reportages.
Il est 10h15 à la grande place de la Poste, déjà investi par près d'une centaine de policiers munis de gourdins et de boucliers. Les piétons y sont même interdits de passage. Les journalistes qui essaient de s'en approcher sont à peu chauffés. Les militants de l'UDPS, eux, dissimulés aux alentours, n'attendent que l'arrivée de leur leader pour se regrouper. L'officier supérieur de la police, sur place, nous affirme qu'il a exhorté les siens à ne pas céder à la provocation des manifestants. Mais il ajoute qu'ils font leur travail car ils n'ont pas reçu l'ordre d'encadrer une quelconque manifestation. À 11h30, le secrétaire général de l'UDPS débarque sur le lieu, accompagné de quelques collègues de partis alliés. Les militants fuient de partout. C'est le début d'un rassemblement qui est vite dispersé à coups de matraque dans une cohue où tout le monde est frappé sans ménagement. Tout se déplore Jacques Massabani.
Nous, à l'UDPS, nous l'avions dit depuis très longtemps, et je crois que les événements démontrent facilement que nous sommes dirigés par un système dictatorial qui a pour principe l'intolérance politique. Alors notre manifestation n'était pas bien vue par ce régime qui en fait est à la base de l'opacité du processus électoral. Ils nous ont brutalisés, ils ont arrêté les gens, ils ont tabassé, il y a des blessés, il y a mon collègue ici Raphaël Kapambou, notre chargé de la mobilisation et de la communication.
L'UDPS dit maintenir la pression jusqu'à obtenir l'audit du fichier électoral et la cartographie des bureaux de vote.
Bien, intolérance politique ou nécessité de maintenir l'ordre public.
Écoutez, il faut lire la loi sur les manifestations politiques publiques, que ce soit parti politique, association culturelle, ou même orchestre, ou même match de football, match de basket. Ce sont des manifestations publiques. Que dit la loi ? La loi dit que, avant d'organiser une telle manifestation, 48 heures avant, il faut aviser. Il faut donc aviser, donc dire à l'autorité que je veux faire telle manifestation à tel endroit et à telle heure. Et l'autorité doit, c'est une obligation légale, doit placer des agents de l'ordre pour encadrer, pour éviter la perturbation de l'ordre public. Mais ici au Congo, on a l'impression que il s'agit d'une autorisation préalable. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que si le président de la ville, le gouverneur de la ville, est de l'UDPS, il ne va jamais autoriser, enfin, dans la mentalité actuelle, il ne peut pas autoriser une marche du PPRD. C'est ça ce qu'on appelle, on n'a pas un comportement républicain.
Il faut rappeler que nous ne sommes plus dans le régime d'autorisation, mais plutôt d'information.
D'information, c'était. Là, est clair. Elle a été même travaillée à l'époque, même de, avant 1 plus 4, avec Kabila et Sine qui viennent d'arriver. Les associations de la société civile se sont réunis pour mettre en place une loi sur le manifestation publique. C'est pour éviter d'être jugé parti en même temps. Comment voulez-vous, le comportement, c'est juste là où on dit que les autorités actuelles manquent un comportement républicain. Parce que demain, ça fait une DPS qui prend le pouvoir, le gouvernement des DPS. Est-ce que nous allons accepter qu'il lui interdise les marches du PPRD ? Non ! Il faut que le PPRD y voit. Alors là, c'est un élément important, un élément qui discrédite l'image du pays à l'extérieur, qui bloque les investissements, parce que la liberté d'aller venir est bafouée, une liberté fondamentale inscrite dans la charte universelle de Nations Unies et dans la Constitution. Deuxième élément, pourquoi recourir toujours à la brutalité pour faire couler le sang des Congolais ? Parce que ceux qui sont blessés sont des Congolais, ce sont des compatriotes que Joseph Kabila Kabange. Je dis bien d'abord, ils sont compatriotes. Deuxième élément qui est frappant, le silence du chef de l'État, qui est le seul de tous les 75 millions de Congolais à avoir prêté serment devant la nation et le monde d'être le garant, n'est-ce pas, de l'unité nationale. C'est-à-dire le symbole de l'unité nationale. Il devrait se lever pour dire « Je n'aime pas qu'on fasse couler le sang de mes enfants. » Vous avez vu avant-hier, les femmes ont marché pour aller dire au ministre de l'Intérieur « Cessez de transformer nos enfants en Kouloula. » J'apprends. C'est rigolo. Oui, voilà, c'est parce qu'on a eu peur de taper sur les femmes. Mais on finira par les taper. C'est pour vous dire qu'ici, il y a le silence du chef de l'État, le silence du parquet et la brutalité de la police qui est parfois alliée au Pomba.
Joseph Kabila Danga, comment peut-on expliquer que les manifestations qui sont pourtant censées être pacifiques soient réprimées par la police nationale congolaise ? En d'autres termes, qu'est-ce qui générait la police nationale quand l'UDPS organise ces manifestations ?
Guimaté, je crois que je vais me répéter lorsque j'ai dit la fois passée. Et dans la lecture du comportement des acteurs politiques, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité, on sentait que personne ne se prépare aux élections. Dans un camp, celui du pouvoir, vous comprenez qu'on tient coûte que coûte à la tricherie
Et cette tricherie passe par le comportement des uns et des autres. Nous avons parlé la fois passée de la non-recevabilité de l'arrêté de l'UDPS au niveau de la Cour suprême de justice pour un cas qui pouvait trouver la solution en amont. Vous voyez, il y a des mandataires qui vont, n'est-ce pas, aux élections, en campagne électorale avec les moyens de l'État. Il y a plusieurs cas que je puis relever qui démontrent que du côté du pouvoir, on tient vraiment à tricher. Et que du côté de l'opposition, on prépare aussi l'opinion à des contestations. C'est-à-dire, on dit, ok, de l'autre côté, on n'ouvre pas la porte, alors préparez-vous à donner votre vie, à sacrifier votre vie pour qu'on installe le pouvoir par tous les moyens. Maintenant, du côté du pouvoir organisateur des élections, qui est la CENI, on sent cette opacité qui est gardée et que l'on ne veut pas ouvrir. On ne veut pas ouvrir. C'est comme s'il y a la volonté des partis d'autres dans les acteurs de ce processus électoral de voir le sang couler. Pourquoi ? Parce que les manifestations, comme je venais de le dire, fidèles, sont prescrites par la loi qui nous met dans un système d'information et non dans un système d'autorisation. Pourquoi ne pas mettre cette police à encadrer ceux qui vont manifester que de les empêcher? La dernière fois, on les a empêchés à leur quartier général à l'unité. Ils se sont dit, comme on nous empêche ici, nous allons choisir un parcours aussi court de la poste jusqu'au niveau du siège de la CENI. Donc c'est un parcours qui vous prend à peine 7 minutes à pied. Pourquoi ne pas les encadrer? Donc vous sentez que ce qui gêne, pour répondre à votre question, c'est que la police est politisée pour, n'est-ce pas, entretenir ces flous, pour entretenir cette opacité qui est de conséquences très désastreuses. C'est là que je crains. Et c'est là qu'il faudrait inviter les uns et les autres, n'est-ce pas, à privilégier l'intérêt national.
Merci. Martial, qui va bien mon goût, l'UDPS est déterminé à maintenir la façon, chaque jeudi. À votre avis, la meilleure façon de gérer ces genres de manifestations, est de leur permettre de se dérouler tout naturellement ou carrément les interdire?
Et écoute, Dilaki, le Congo a déjà reçu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. On peut pas être là pour compter chaque jeudi des blessés, d'arrestations. Je crois que c'est assez. Des fois, quand je suivais hier le reportage du confrère de Radio Capi, je me disais, mais c'est vraiment des trop maintenant. C'est des trop. Pourquoi les éléments d'ordre public n'arrivent pas à laisser aux partis politiques en question d'effectuer sa manifestation régulièrement? Et le deuxième point, je crois qu'au sein des partis politiques, que ce soit de l'UDPS, que ce soit de certains partis politiques de la majorité, on doit chercher aussi à amener toujours les enfants d'autrui pour être arrêtés, pour être blessés. C'est assez. Et je profite directement pour rendre hommage à notre confrère. On est ici, Mkandi, là, qui, lors de l'exercice de son travail, il a été
bastonné.
Vraiment, ça, je demanderais même en passant que ça, c'est quelque chose que je devais condamner, et pour que ça ne se répète pas, même à un autre journaliste d'une quelconque radio ou d'un caméraman, qui faisait son travail librement.
Et puis, Moussangou, l'aspect au serveur central qui est l'une des revendications de l'UDPS pose problème. Hein. Cela est conditionné par la désignation des délégués de la majorité. Or, à la majorité, on semble ne pas être disposé à s'impliquer dans cette démarche.
Moi, quand j'étais élève, je me rappelle que avant les examens départementaux avec l'examen d'État, on nous avait convié à une matinée pour prendre connaissance des salles où nous allons subir l'examen d'État. C'est ça. Actuellement, moi je suis père d'enfant, mais si je crois qu'il y a un cap qui a terminé les humanités, il y a toujours une journée où on appelle les étudiants à aller voir la salle, les salles où elles vont, enfin les élèves vont passer l'examen d'État. Je suis un sportif. À l'époque, j'étais sportif, j'ai joué au basketball, j'ai joué au volleyball à Bukavu, j'ai fait de la natation. Avant la compétition, chaque équipe avait un temps minimum pour vérifier l'état du terrain. Récemment, le Cameroun est arrivé mercredi. Jeudi, le Cameroun était au stade de Martigues pour vérifier l'état du terrain. Vous comprenez? Et en même temps, les officiels vérifient les identités des joueurs de l'équipe adverse. Pourquoi la CENI refuse à l'UDPS et aux partis d'opposition de regarder le serveur? Le serveur n'est qu'une machine, et comme disait le professeur Mbelolo, l'ancien recteur de l'IFASIC. Une machine, le fait que c'est que l'homme veut qu'elle fasse. Alors, si les autres disent, nous voulons vérifier le serveur,
La CENI dit non, vous devez revenir à deux. Non, si la majorité trouve son compte, vous dit n'a pas intérêt à les voir, laissez-y vous dire, vous serez là-bas. Pour vérifier, non, voilà, ils vont vous intéresser. Ben, ils vont mettre des informaticiens.
Donc, la CENI ne veut pas se mettre là comme condition.
Non, mais pourquoi? C'est une machine. Attention, c'est un instrument qui va servir à l'élection présidentielle et aux élections législatives. Pourquoi fermer ça? Ça veut dire, à ce moment-là, je vois l'acharnement avec lequel Ngoï Mouloun refuse de dire les serveurs, c'est que ces serveurs cachent des choses mauvaises. Et attention, si on découvre qu'il y avait des choses mauvaises, notamment ce qu'on apprend maintenant, on est en train de récupérer les numéros des cartes et des certains pour que le jour de l'élection, on dise non, vous avez déjà voté. Ça, c'est un. Deux, nous savons, mon journal a publié, qu'il y a des millions de Congolais bénéficiant de la carte d'électeur dont les noms ont été effacés du fichier électoral. Alors imaginez le 28 novembre, des millions arrivent et ils ne sont plus pas sur la liste des électeurs de la circonscription. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera la pagaille.
Il y a cette technologie, loi, droit et devoir. La loi qui doit être observée, les droits des manifestants qui doivent être reconnus à la population, et les devoirs qu'a la police de pouvoir encadrer les manifestations. Et si cette technologie est prise en compte, on pourrait prévenir ce que l'on est assez déclaré aujourd'hui.
Mais comment le prévenir? Parce que chacun dans son camp est très déterminé, n'est-ce pas, à voir le pays tomber dans le chaos. Qui veut la paix?
Non. Vous êtes en train de faire un procès d'intention à l'endroit.
Ce n'est pas un procès d'intention, je suis un futurologue. Vous pouvez anticiper les choses en lisant les comportements des uns et des autres aujourd'hui. Parce que si le pasteur Ngoï Mouloun qui dirige la CENI veut enlever le prétexte, les alibis à ceux de l'opposition, de contester les élections demain, il pouvait facilement ouvrir les serveurs, n'est-ce pas, à l'audit de l'opposition. Est-ce que ça demande réellement que le deuxième fils de la famille vienne pour qu'on fasse l'inventaire de ce que l'on a dans sa famille? Non, je ne pense pas. Ça, c'est de un. De deux, vous sentez que du côté du pouvoir, on ne veut pas non plus reconnaître les droits de manifester qui est pourtant inscrit dans la loi fondamentale de notre pays. Et du côté de l'opposition, vous sentez aussi vraiment qu'on en profite. On sait vraiment que la CENI ne va pas lâcher, la police ne va pas lâcher. Alors qu'on en profite pour davantage augmenter le nombre de morts, augmenter le nombre de blessés, augmenter. Donc c'est comme si on veut faire alourdir le poids du pouvoir, de telle sorte à crier au niveau de la communauté internationale pour qu'on assiste, n'est-ce pas, à Côte d'Ivoire ou à la Libye ou à ce qui s'est passé dans le Maghreb aujourd'hui. C'est là que je dis que je ne lis pas dans le comportement des uns et des autres la préparation des élections, mais par contre, une tricherie qui doit aboutir à une victoire qui sera accepté ou pas, mais une contestation aussi du côté de l'opposition qui va refuser cela et ça sera un chaos, mais quel chaos amènera encore à des négociations, amènera encore à une intervention étrangère pour qu'il y ait encore la paix dans ce pays. C'est ce que je crains.
Marcel Pisa Biamungu, que peut-il faire pour prévenir la répression des manifestations publiques?
Ce sont du matin. Je crois qu'il faut d'abord que ce soit au niveau de la CENI, des partis politiques, et même à la police, la PNC, qui est censée protéger les manifestations. Il faut que la communication soit bonne. Il faut que tous ces différents partis sachent très bien que moi je dois faire ça, moi je ne peux pas faire ça. La CENI est l'organe aujourd'hui reconnu pour organiser les élections. Donc laissons la CENI faire son travail et on verra.
Merci, notre deuxième thème de ce soir. Le Palou se décide d'appuyer Joseph Kabila et la majorité présidentielle aux prochaines élections. Le parti humaniste Unifié Palou en sigle a annoncé son ralliement au programme du candidat Joseph Kabila à l'élection présidentielle de novembre prochain. Annonce est faite vendredi 7 octobre dernier à Kinshasa par le chef du Palou, Antoine Gizenga. C'était au cours de la présentation à la presse et à sa base du programme de gouvernance de son parti. Un programme intitulé 50 promesses pour un Congo plus beau qu'avant. Il est fondé sur l'idéologie du nationalisme tout-mondiste et s'articule autour des quatre objectifs politiques dans le maintien de l'unité nationale. Jack Ngoï pour le détail.
Le programme du panneau vise quatre objectifs fondamentaux, à savoir le maintien et le renforcement de l'unité, de la paix, de la démocratie et de la stabilité politique du pays. Et il prône la poursuite et l'intensification de la construction politique, économique et sociale de la nation. Le panneau veut aussi promouvoir le développement de la RDC à tous les niveaux et améliorer les conditions sociales de la population, ainsi que réaliser une solidarité nationale. Pour concrétiser les 50 promesses contenues dans ce programme, le chef du panneau annonce que son parti soutiendra le candidat Joseph Kabila à la présidentielle de novembre. Car, d'après Antoine Gizenga, Kabila est le seul parmi les candidats apparenté à la mouvance nationaliste lumumbiste. Son programme auquel le panneau adhère vise, en ce Gizenga, la grandeur de la nation, la souveraineté du peuple, l'indépendance, la dignité, le caractère républicain et démocratique forment ainsi les valeurs cardinales que le panneau tient à garantir.
Et Joël Kadé-Ndanga, la position des Palous est-ce une conséquence logique du fait d'avoir co-géré avec leurs alliés de la majorité ou tout simplement du réalisme politique?
Ni réalisme politique, ni conséquence, mais un devoir de reconnaissance, un devoir de gratitude pour un ami qui les a aidés à partir de la pauvreté. On ne pouvait pas attendre une autre réaction, n'est-ce pas, du Palou que cette position-là prise. Moi, je ne vois pas Palou qui a eu 34 députés d'ailleurs, dont 29 ont été chassés, parce que, pour quelle raison? Parce qu'ils auraient refusé de donner leur 40% du prêt de loyer, de locomotion et consort avec ces rétroactifs. Ils nous sont restés qu'assistés.
Oui, c'est ça.
En effet, je l'ai lu dans la presse ce matin, il y a 29 députés qui se sont fait inscrire sur cette presse. J'ai le journal devant moi, je ne sais pas le fouiller, mais c'est vérifiable, vous pouvez le vérifier. 29 députés du Palou se sont fait inscrire sur les listes des autres partis politiques ou en tant qu'indépendants.
C'est tout à fait logique, parce que la loi dit qu'à partir du moment où vous déclarez ne plus faire partie du parti sous les labels duquel on a été voté, à partir de ce moment-là, on perd son mandat à l'Assemblée nationale.
Je ne voudrais pas perdre une fille d'idée guillemette pour vous dire que le PPRD, le parti qui a eu plus de voix au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, plus de sièges, n'a pas pu gérer. C'est le Palou qui a géré, c'est le Palou qui a été ministre. Pourquoi j'ai dit, en ce qui concerne les concertations entre opposants pour avoir un programme commun, pour se partager le pouvoir, que c'était une distraction qui allait encore replonger le pays dans un immobilisme qui était même condamné par le chef de l'État. Mais le chef de l'État était dans une capacité, n'est-ce pas, de donner solution à cet immobilisme parce que les accords préélectoraux avaient déjà établi les choses ainsi. Alors, quelle est la question que Palou pouvait donner, si ce n'est de soutenir Joseph Kabila en reconnaissance par rapport à tous les bienfaits que ce parti a eu à bénéficier durant toute cette première législature?
Évidemment, Sangou, selon Joël Kadé, le Palou n'avait pas de choix. Et à votre avis, le Palou pouvait-il se permettre de prendre une position contraire à celle qu'il vient de prendre?
Vous savez, quand je lis l'histoire politique de Antoine Gizenga, je remarque qu'en 60, lorsque les groupes de Binga, donc Mobutu, Bomboko, Dendakan, Dele et compagnie et Kassavubu, font un coup d'État constitutionnel contre le gouvernement légalement établi et majorité à l'Assemblée. Font un coup d'État avec l'aide de la Belgique et des États-Unis. Gizenga et les autres du cartel lumumbiste, donc les Baloubakati, quittent Kinshasa et ils vont créer une république face à les villes. C'est dommage que Gizenga est arrivé là-bas, il était notre premier ministre et Mbeki, président de la République populaire et bosnienne à Poisson. Ça, c'était le courage d'un nationaliste. D'accord? Après les négociations, Gizenga est revenu ici. Quand il fallait maintenant mettre un gouvernement d'union nationale. Il a essayé de conquister le ministre. Mais il y a la guerre contre la sécession du Rwanda. Gizenga est au fond. Quand il rentre ici, il est arrêté. Il est mis en prison ici, sous l'île de Boulabemba. Et c'est Tshombe qui l'a libéré de cette prison. Et une fois libéré, Gizenga a créé le Palou. Nous sommes en 1964. Et il dit qu'il n'accepte pas le régime de Tshombe, parce que Tshombe était un sécessionniste. Et Gizenga part en exil jusqu'en 1991, quand il est revenu. Voilà les Gizenga qui étaient nationalistes, qui étaient liés à l'idée de Lumumba. Maintenant, quand je vois le Gizenga actuel, oui, il est revenu au processus démocratique. le processus de démocratisation. Oui, il a gagné les élections avec Kabila. Mais pendant cette législature, moi je ne vois pas mes analyses. Je vois les critiques d'un certain Vital Kamerhe, membre du PPRD. Pour lui, le bilan a été négatif. Je vois les critiques de Mboussa Nyamwisi, qui a fait plus de 11 ans avec le Kabila. Il dit que le bilan est négatif et il va loin. Le discours de Mboussa Nyamwisi était plus fort que celui que Tshisekedi utilise. Moi, quand je fermais les yeux, je me suis dit, mais je suis devant Tshisekedi, je vois Mboussa Nyamwisi. Alors, quand je vois maintenant le tableau sombre, négatif, dressé par Kamerhe, Mboussa Nyamwisi, et Gizenga dit que Kabila est celui qui incarne le lumumbisme, le monde à l'envers, ça veut dire que, attention, pour l'histoire, le Palou partage le bilan largement négatif tel que décrit par Kamerhe, un ancien apparition.
Mais logiquement, il doit partager ce bilan parce que c'est le Palou qui a géré.
Non, je dis, l'histoire ne jugera mal Palou. Palou n'a pas eu le courage du groupe de 13 parlementaires, Kingwa Kumwanza, et Tshisekedi, Mpinga, tout ça, qui ont à un moment donné, attention, ils avaient vos quarantaines d'années, hein, ils ont dit non, on n'est pas d'accord avec les dérives du pouvoir de Mobutu, et ils sont partis, ils ont même été malmenés pendant des années. Le Palou actuel n'a pas le courage des Gizenga de 61. Palou actuel n'a pas le courage des Gizenga de 64. Ça veut dire le Palou partage le bilan largement négatif tel que décrit par Vital Kamerhe, apparitif du kabilisme, et Mboussa Nyamwisi, un autre allié du kabilisme.
Mais quoi, c'est que le Palou a le droit de faire son choix.
Mais l'histoire actuelle contraste avec les valeurs qu'il prône. Le lumumbisme, le nationalisme, ça. C'est le régime ici a été accusé d'avoir signé des contrats léonins, et le ministre de Mine, c'est un petit du Palou, Martin Kabouloulou, le ministre de Budget, c'était l'actuel Premier ministre, l'actuel Premier ministre, il est là, il ferme les yeux, il s'éteint. Donc il est dit mon consent. L'histoire jugera le Palou très très mal.
Mais le Palou n'est-il pas en train d'assumer parce qu'il a co-géré avec la majorité? Est-ce qu'il n'est pas en train d'assumer?
Non, je dis que Lumumba, Gizenga à 61, a dit non, il est parti, il était jeune. Gizenga à 64. Tomber le leader de la prison au Blamba, nous propose un poste de ministre. Il dit non, je ne peux pas dans le mouvement d'un sécessionniste, mais je suis nationaliste.
Mais on dit que la politique est dynamique.
Oui, elle est dynamique, mais parfois, écoutez, il n'a pas ce courage. Je constate que Gizenga Tuen n'a pas ce courage. Gizenga Tuen n'a pas le courage du groupe des 13 parlementaires qui avait dit non à Mobutu. Et pourtant, à ce moment-là, ils étaient députés, ministrables, et ils avaient quel âge? Ils avaient 48 ans. Et puis, ils avaient 40 ans. Donc, des jeunes gens qui avaient encore la fleur d'âge, ils ont dit non à un régime. Donc, ça, je l'histoire jugera mal le Palou.
Merci. Martial Kiza Biamungu, la majorité présidentielle après avoir perdu deux de ses alliés, à savoir les RCD-KML et l'UDEMO, avait certainement besoin du Palou pour maintenir cet équilibre Est et Ouest.
Écoutez, d'abord, la position du Palou, personne ne peut s'étonner de ça. Tout le monde savait que normalement, Palou devait nécessairement appuyer le pouvoir actuel qui a son candidat Joseph Kabila Kabange. Comme disait Joël, c'est une sorte de reconnaissance parce que jusqu'aujourd'hui, nous sommes au troisième rite, je crois, rite 3, jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est une façon d'avoir une reconnaissance. Mais la question maintenant qui reste à se poser, est-ce que le Palou de 2006 aura la même popularité que le Palou de 2011? Parce qu'on parlait de l'ANP plus Palou Idemo. Aujourd'hui, Idemo se retirait. Est-ce que Palou, aujourd'hui, aura la même majorité qu'il a récolté en 2006? Et je crois que, par rapport même à ça, on risquerait d'avoir aussi d'autres alliances qui ne peuvent pas avoir la même influence que de 2006. Et après, on se trouve qu'on a mal choisi.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir, affaire Lukolela. Pas de divergence entre Kinshasa et Brazzaville au sujet de l'attaque contre la cité de Lukolela en province de l'Équateur a rassuré mardi dernier le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de divergence entre les deux Congos. Déclaration faite mardi dernier à Brazzaville par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Adolphe Lumanu Mulenda Bonansefu. C'était à l'issue d'un entretien avec son homologue de Brazzaville, Raymond Zéphirin Mboulou, au sujet de l'attaque des jeudi 6 octobre dernier contre Lukolela. L'armée et le gouvernement de la RDC avaient indexé les Congos voisins. Mais à l'issue de sa visite à Brazzaville, le ministre Lumanu a dit qu'il n'était pas question d'impliquer le gouvernement du Congo Brazzaville dans cette affaire.
Les détails avec Arsène Séverin, correspondant des Radio Okapi à Brazzaville.
Il y avait peut-être des termes divergents, mais pas d'options différentes sur cette affaire, a dit mardi à Brazzaville Adolphe Moumani. C'était à l'issue d'un huis clos avec son homologue brazzavillois Raymond Zéphrène Boulou. Nous avons tout simplement relayé les informations à chaud que nous avons recueillies et nulle part il n'a été question d'impliquer qui que ce soit, encore moins le gouvernement du Congo Brazzaville, a ajouté le ministre Moumani à la presse. Dans la nuit du jeudi à vendredi, en effet, la ville de Lukolina, dans le nord-est de la RDC, avait fait l'objet d'attaques armées par des hommes venus de Brazzaville selon l'armée de la RDC. Kinshasa avait alors accusé Brazzaville de préparer des opérations de déstabilisation contre la RDC, ce qui avait ravivé la tension entre les deux pays le week-end dernier. Adolphe Moumani a donc dit à la presse que c'était une rencontre de vérité. Selon lui, les deux Congos sont condamnés à vivre ensemble et contre eux, le linge sale se ravira toujours en famille. Les divergences sur cette question, il n'y en avait vraiment pas, a-t-il
Marc Télé, Arsène Séverin Brazzaville, Radio Capi. Marc Télé, vous êtes correspondant du Digital Congo, Anitour en France orientale. La mise au point du vice-premier ministre Lumanu est tombée à point nommé quand on se rappelle la réaction du gouvernement congolais lorsque le gouvernement de la RDC avait annoncé l'attaque de la cité de Lukolela à l'Équateur.
Moi, je me dis que la déclaration de Adolphe du ministre de l'Intérieur, c'est une déclaration vraiment politique. Quand on peut dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux pays, c'est faux, parce que comment on peut arriver à avoir chaque fois des attaques de certains qui se disent rebelles à provenance du Congo Brazza pour attaquer certains villages congolais? Et je crois même que ces différents éléments possédaient même des cartes de consulaires. Il est vu par l'ambassade de l'RDC au Congo
Brazza. C'est la façon officielle.
C'est la façon officielle. Voilà, c'est minimiser le pays même. Et puis, si les deux pays, il n'y a pas de divergence de vie. Pourquoi aujourd'hui le général n'est pas encore transféré
toute allusion au général le même.
Voilà. Pourquoi il n'est pas transféré à l'RDC jusqu'aujourd'hui? Alors que Kinshasa a déjà demandé plusieurs fois au transfert, mais ce n'est pas fait. Et d'ailleurs, c'est dernièrement ici qu'on vient d'envoyer l'ambassadeur au niveau de Brazzaville. Après quelques mois d'absence de l'ambassadeur,
Christophe
Mouzoungou. Donc il y a un problème. Pourquoi ces rebelles qui se trouvent au Congo Brazza peuvent avoir des cartes consulaires de l'RDC? Et puis on peut dire que non, il n'y a pas de différence qui existe.
Yves Kader Danga, Marcel Kizabamungu, pense que au-delà des déclarations de Moumanou, il y a des problèmes de divergence entre les deux capitales. Vous partagez ces points de vue?
Il y a une crise dans nos services de renseignement et il y a un problème de diplomatie dans notre pays. La crise de nos services de renseignement, ce sont ceux qui ont rapporté l'information au vice-premier ministre. Et la précipitation avec laquelle il a donné cette information accusant un pays voisin d'avoir permis ou d'avoir facilité la tâche à une insurrection contre notre pays.
Et où se trouve le caractère tactique de cette déclaration? Parce que le collègue a été attaqué le 5, et c'est le 7 que le ministre Lumanu a fait sa déclaration.
Mais il y a deux jours, pourquoi ne pas avoir anticipé rencontrer Mboulou avant de faire cette déclaration? Pourquoi ne pas avoir mené une diplomatie préventive? Et un confrère l'a dit dans la revue de la presse faite par Télécouté. Pourquoi ne pas faire cette diplomatie-là avant de fournir les renseignements dont vous n'avez pas une certitude? Parce que tout peut arriver. Et la réaction du Congo Brazza ne se fait pas attendre. Vous avez entendu le lendemain, on quitte le terrain de l'armée, on quitte le terrain de la guerre, mais on atterrit déjà sur le terrain de prétexte d'un alibi qu'on chercherait pour ne pas organiser les élections le 28. Qu'est-ce qui se cache entre les deux Congos? C'est là où je dis qu'il y a un problème de crise de renseignement dans notre pays. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Et c'est latin. Mais
vous voulez dire que le gouvernement de la RDC est mal renseigné?
Mais ça se lit, évidemment. Non seulement qu'il y a des mauvais renseignements, mais aussi il y a eu une précipitation en faisant une déclaration pour se responsabiliser le pays voisin. Et par la suite, non, c'est le linge sale. Quel linge sale? Parce qu'on pouvait anticiper par une diplomatie préventive, aller rencontrer Mboulou avant, solliciter le rencontrer pour
créer une brutaliser un peu, mettre un peu la population dans la hantise, dans la peur. On a vraiment traumatisé tout le monde, on a traumatisé tout le pays, on n'a pas besoin encore de la guerre. Mais pourquoi on ne peut pas garder sa langue en pause jusqu'à ce qu'on ait lavé les linges sales en famille avant que les soient portés sur la voie des ondes?
Sylvain Moussango, vous êtes coordonnateur du journal Le Parc, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui peut être à la base des inquiétudes que Kinshasa ne cesse d'exprimer?
Écoutez, il y a un problème de la gestion de la chose publique. Encore une fois, le Congo vient d'étaler à la face du monde la médiocrité, la méchanceté.
Quel Congo? La RDC ou le Congo?
La RDC, Congo Kinshasa. Parce que,
vous savez, le fait d'avoir dénoncé, c'est...
Écoutez, il y a ceci. Est-ce que vous pouvez imaginer un commando qui va en opération avec des cartes d'identité et non de mission? Même une armée régulière, quand une armée va en guerre, les militaires n'ont même pas des cartes d'identité, il n'y a pas un nom de mission. C'est l'état-major qui a le plan de guerre et quelques officiers qui sont au front et qui ont ça par cœur parce que ce n'est pas un code secret. Mais ici chez nous, non, on nous dit qu'on a attrapé des assaillants avec l'ordre de mission de Mouni. On dit même le nom. Et même des cartes de consulaire. Ça, c'est grave.
Est-ce que ça paraît invraisemblable?
Ça, c'est la médiocrité même. C'est incroyable. Ça ne peut pas se faire. Est-ce que si l'armée congolaise, s'il y a une opération, par exemple, il y a des militaires qui sont en opération à l'Est contre les Kiyom, est-ce qu'ils ont des cartes d'identité? Ils n'en ont pas. Parce qu'ils sont connus à l'état-major que nous avons envoyé X, Y, Z. Même s'ils meurent, on sait qu'on est tel et mort. Il n'y a pas de garde d'alcool. Parce que c'est une question de sécurité du militaire. Ça, c'est un. Mais là, quand il s'agit d'un commando, un commando donc irrégulier. Mais ces gens, ils opèrent toujours la nuit, parce que c'est un commando privé. Mais l'armée normale opère le jour. Ça, c'est un. Deuxième élément. Moi, j'ai l'impression que nous sommes en face d'un groupe mafieux. Ce sont des amis de la majorité présidentielle qui m'ont dit. On a l'impression qu'on a affaire à un groupe mafieux qui essaie de monter chaque fois des coups pour terroriser les tenants du régime, pour les tenir alliés. Attention, on va vous attaquer. Ah, ben ça vient de ceci. Alors tout le monde tremble ici. C'est ça.
Et au-delà de tout cela, qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer les deux capitales?
Mais écoutez, regardez la réaction responsable d'un pays comme Brazzaville. Immédiatement, Mboulou a été clair pour dire: monsieur, si vous n'êtes pas en mesure d'organiser les élections d'être prévues, dites-le.
Mais la réaction de l'humano est si responsable. Lui qui quitte Kinshasa, il va voir
ses... c'est la réaction d'un enfant que l'on prend la main dans le bol du sucre quand il mange le sucre. On dit: ah, tu as mangé, oh, ouvre la bouche, il y a plein de sucre. C'est ça la réaction. C'est ridicule. C'est ridicule. Or, s'il y avait des problèmes, ça se fait en coulisses. C'est dans les cadres diplomatiques discrets. On dit: monsieur, et puis Mounine, là, il représente quoi? Mounine ne représente aucune menace, monsieur. Vous voyez, il faut pas donner à quelqu'un de l'importance qu'il n'a pas. C'est comme ici, je connais des conflits qui continuent à dire balkanisation, balkanisation. Oh, ça viendra du Rwanda. Mais on donne aux Rwandais une puissance qu'ils n'ont pas. Et ils sont même malheureux et étonnés de voir ça.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Noël Mokondo était à la technique et Kevin Kouté à la réalisation. Assisté de Samuel Kachat, sous la supervision des télé équipés à Mondo. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bon suite du programme sur Radio Kapi. Thank you.